Oui, chers amis, c'est toujours avec joie que Madeleine et moi-même, nous participons à votre culte. N'est-ce pas? C'est tellement bienfaisant de pouvoir chanter ensemble avec une partie musicale bien, bien soutenue, que nous apprécions particulièrement. Et puis aussi de revoir des vieux amis parmi nous que nous connaissons depuis que nous sommes arrivés dans la région autour des années 90. Alors ça fait longtemps. Tout ça est bien précieux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on suit l'actualité dans les médias, et depuis quelques semaines, on est quand même stupéfait de voir le nombre de scandales qui défilent les uns après les autres. Et non pas le scandale causé par tel personnage particulier, mais des scandales qui touchent toute la société, depuis le haut, j'allais dire jusqu'en bas, n'est-ce pas? Et chacun de ces scandales nouveaux efface l'autre. Depuis une semaine, on parle des Paradise Papers, évasion fiscale, n'est-ce pas? D'autres emploient une autre expression, mais c'est bien ça. Et depuis qu'on en parle, eh bien, le précédent scandale, celui des violences faites aux femmes, tentatives de viol, harcèlement sexuel, etc. Et ça pas seulement avec quelques vedettes du showbiz, mais à tous les niveaux. Et un scandale qui pourtant a remué tant et plus les réseaux sociaux, à tous les niveaux, et puis a suscité d'interminables débats dans les médias, on n'en parle plus. Et pourtant, ce problème est très ancien, et tout le monde est au courant. Il est loin d'être résolu. Et ce n'est pas une nouvelle loi ou des changements dans la grammaire et la syntaxe française qui vont résoudre le problème d'un instant à l'autre, on le sait très bien. C'est un problème très grave. Il faudrait en parler dans l'Église. Je ne vais pourtant pas en parler ce matin, mais ça sera seulement en quelque sorte un peu la toile de fond de la méditation que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Je crois que ça suffit pour l'instant. Il y a trop de tristesse et de dégoût quand ces choses ressortent au grand jour. Je pense que vous le ressentez comme moi. Mais voilà, devant ces faits, cette actualité si difficile, si dure, nous avons la patience et la consolation que donnent les Écritures. C'est une belle expression du début du chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Et quand on lit l'Évangile, et tout particulièrement l'Évangile de Luc, alors, cette patience et cette consolation peuvent naître dans nos cœurs. Et le texte que je vous propose se trouve justement dans l'Évangile de Luc, au début du chapitre 8. J'avais préparé sur une clé les textes à projeter. Malheureusement, la clé a disparu. Bon, elle est quelque part. Mais tant pis, nous allons procéder sur le mode ancien. On avait nos Bibles à la main, enfin, un grand nombre. Aujourd'hui, il y a les portables. Et puis, on peut écouter, parce qu'après tout, ces textes ont été écrits pour être prononcés, pour être lus dans le cadre de la communauté chrétienne. Alors, voilà ce début du chapitre 8. Vous voyez, nous ne sommes pas ni au commencement ni à la fin de l'Évangile. Ce début du chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. La nouvelle traduction dit beaucoup d'autres qui les assistaient de leur bien. C'est un petit passage qui surprend. J'ai lu un commentateur qui disait aucun rapport avec ce qui précède et avec ce qui suit. Voilà, un passage un petit peu injecté comme ça dans l'ensemble de ce récit de l'Évangile. Mais c'est, oui, c'est vrai, c'est comme une pause dans le récit qui rappelle le ministère itinérant de Jésus, de ville en ville, de village en village, et son activité essentielle, l'annonce, la prédication d'une bonne nouvelle, celle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui vient et qui est déjà là. Voilà. Mais pour cette tâche, cette prédication, il n'était pas seul. Il y avait avec lui les douze apôtres. Le chapitre 6 qui précède nous apprend comment ils ont été choisis solennellement, après toute une nuit de prière du Seigneur, n'est-ce pas ? Et on a le nom aussi de ces 12 apôtres, cela est répété dans les 3 évangiles aussi. Et puis, il y avait aussi quelques femmes. On pourrait traduire certaines femmes, en tous les cas c'est un indéfini, voilà, il y avait des femmes qui étaient là. Et on donne le nom de 3 d'entre elles. Il y avait Marie, par ailleurs, elle est appelée Marie de Magdala, parce qu'elle venait d'un petit village pas loin du lac de Galilée, au pied d'une montagne, un petit village que nous avons pu voir avec quelques-uns d'entre vous lors d'un voyage en Israël que nous avons pu faire. Et moi, ça m'a vraiment frappé de découvrir ce petit village de Magdala, là, au pied de la montagne, pas loin du lac de Galilée ou de Génézareth. Donc elle s'appelait Marie, il y en avait des centaines de Marie. Elle était originaire de ce village et puis elle avait été délivrée de 7 démons. 7 démons, un suffirait. Imaginez une femme habitée de 7 démons. Ça doit être terrible. Et le Seigneur l'avait délivrée. C'est tout ce qu'on sait de cette femme. Et pourtant, elle est très présente dans les évangiles. Elle est devenue presque une célébrité, n'est-ce pas ? Marie de Magdala. Elle était présente lors de la résurrection. L'apôtre Jean la met particulièrement en valeur. Mais c'est tout ce qu'on sait d'elle. Et puis, il y avait là, dans le texte, une certaine Jeanne, qui alors faisait partie de la haute société. Elle était la femme de l'intendant d'Hérode. Hérode Antipas, un des fils d'Hérode le Grand, qui dominait une partie du pays, n'est-ce pas ? Donc une femme qui avait des moyens, sans doute. Puis il y avait Suzanne, on ne sait rien d'autre. Suzanne, voilà, on a son nom, c'est tout. Et puis beaucoup d'autres. Les autres qui étaient là et qui restent totalement anonymes. Voilà ce passage. Alors, comme je l'ai rappelé, certains ne voient pas de lien avec ce qui suit, ce qui précède. Enfin, ce n'est pas un corps étranger dans le texte, mais quand même. Alors ça, c'est étonnant parce que le texte commence par le mot « et ensuite ». Et dans le texte original, on insiste. Après tout cela, qu'est-ce qui vient de se passer ? Une histoire intéressante. À la fin du chapitre 7, à partir du verset 36, n'est-ce pas ? C'est l'histoire d'une femme prostituée, une pauvre femme, qui a réussi à s'introduire dans la maison d'un pharisien qui avait invité Jésus à dîner. Comment elle a fait, on ne sait pas, mais en tous les cas, elle a réussi à s'introduire dans la maison, elle est arrivée jusqu'à la salle du festin, et là, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, tellement que les pieds de Jésus étaient trempés de ses larmes. Alors il les a essuyés avec ses cheveux. À ce moment-là, le pharisien, scandalisé, a pensé en lui-même, mais si ce Jésus, si cet homme était un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Alors Jésus a pris la parole. Et puis, peut-être vous vous souvenez du texte, il a raconté l'histoire d'un homme qui devait une énorme somme, et puis d'un homme qui devait une petite somme, et puis tous les deux, on leur a remis leur dette, etc. Et il a posé la question, mais lequel l'aimera le plus? Alors le pharisien a répondu correctement, celui dont la dette était la plus élevée. Jésus lui a dit, tu as vu cette femme? Il l'avait vu cette femme. Eh bien, quand je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, comme c'était la coutume. Elle les a mouillés de ses larmes, lavés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas salué selon la coutume, n'est-ce pas? Donner le baiser d'accueil. Elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Et vois-tu cette femme, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Et pourquoi a-t-elle beaucoup aimé? Parce que elle a été beaucoup pardonnée. Et il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et puis on a notre texte. Il y a un lien. Et il y a un lien aussi avec une particularité de l'évangile de Luc. Dans Luc, il y a un certain nombre de passages qui ne se retrouvent nulle part ailleurs, ni dans Matthieu, ni dans Marc, et pas dans Jean, n'est-ce pas? Et ces passages sont intéressants, parce que plusieurs de ces passages qui sont tout à fait propres à cet évangile parlent de femmes, d'un certain nombre de femmes. Déjà, souvenez-vous, dans le début de l'évangile, quand on raconte la naissance de Jésus, et puis d'abord il y a Élisabeth et Zacharie, n'est-ce pas, Zacharie qui fait son service dans le temple, et puis sa femme Élisabeth, qui était une vieille femme, qui avait été stérile toute sa vie, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'enfant. Et puis, l'ange annonce à Zacharie qu'elle va être enceinte, elle va avoir un fils, n'est-ce pas? C'était Élisabeth. Et puis, après, il y a alors une toute jeune femme, Marie, qui était tout juste fiancée, n'est-ce pas? Qui allait se marier avec Joseph. Et voilà que l'ange Gabriel s'adresse à elle, lui annonce qu'elle va attendre un enfant et que cet enfant va être le Messie. Voilà, tout le monde connaît ces textes, n'est-ce pas, cette petite jeune fille, cette Marie. Et puis il y a la rencontre entre Élisabeth et Marie, n'est-ce pas, leur bébé qui est en elle, qui réagit, etc. Ce sont quand même des histoires extraordinaires à propos de ces deux femmes. Et puis après, dans la suite du récit, il y a Anne qui avait 84 ans, n'est-ce pas, très vieille, qui était dans le temple, qui priait jour et nuit, et quand elle a vu le bébé Jésus, elle l'a pris dans ses bras, elle a reconnu en lui le Messie. Comme c'est curieux, n'est-ce pas? Et puis ça continue, la belle-mère de Pierre, il n'y a que Luc qui en parle. La belle-mère de Pierre, elle était atteinte de la fièvre, Jésus l'a guérie. Immédiatement, elle se lève. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à servir Jésus. Pas si elle a fait la vaisselle ou si elle a amené de la nourriture ou quoi. En tous les cas, on a ce verbe servir. Il y a la belle-mère de Pierre. Et puis, il y a le fils de la veuve de Naïm. Alors, elle, on ne connaît même pas son nom. On sait seulement qu'elle était veuve et qu'elle habitait ce petit village de Naïm, n'est-ce pas? Et comment Jésus a ressuscité son enfant qui était mort. Et puis il y a Marthe et Marie, n'est-ce pas, les sœurs de Lazare. qui, alors vous savez, Marthe qui faisait le ménage, etc., qui préparait leur pas, et puis Marie qui était au pied de Jésus. Tout ça, ce sont des textes propres à Luc. Et il y a cette femme, cette pauvre femme qui était courbée, handicapée depuis 18 ans et que Jésus a guérie au scandale le jour du sabbat. On se souvient de tout cela. Et il y a encore la veuve, n'est-ce pas, qui talonne le juge, qui ne veut pas lui faire justice et qui est tellement insupportable que cette femme finit par obtenir gain de cause auprès du juge. Voilà. Et puis encore une autre pauvre veuve qui était tellement pauvre qu'elle a mis seulement quelques pièces dans l'offrande. Quelques toutes petites pièces. C'était rien. C'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Que de récits vraiment touchants. Et je ne fais pas état du livre des Actes, qui est aussi l'œuvre de Luc, n'est-ce pas ? Et qui a tant de récits qui vont dans le même sens. Beaucoup de femmes veuves, vieilles, des pauvres et même des prostituées. Qu'avaient-elles donc en commun, toutes ces femmes, n'est-ce pas ? Qu'avaient-elles donc en commun ? Un fait précis, la rencontre avec Jésus. Et ça, c'est tellement, tellement touchant, n'est-ce pas ? Le face-à-face avec Jésus, la rencontre avec Jésus. Tout à coup, elles se sont trouvées face à Jésus. Et leur vie a été bouleversée. Avoir un enfant quand on est une vieille femme stérile, n'est-ce pas, c'est quelque chose. Quand on est une jeune fille qui est tout juste fiancée, quand on est courbé depuis 18 ans, etc., n'est-ce pas, quand on a 84 ans, qu'on tient un bébé dans ses bras, etc. Leur vie a été touchée par cette rencontre avec Jésus et totalement bouleversée. Et ces femmes, plusieurs totalement anonymes, sont devenues très célèbres, au point que nous en parlons entre nous maintenant, ici à Meulan, presque 2000 ans après, n'est-ce pas ? C'est tout à fait extraordinaire. Et toutes ces femmes portaient de lourds handicaps, veuvage, vieillesse, prostitution, etc., n'est-ce pas ? Et voilà qu'elles ont expérimenté ce miracle, cette guérison, cette délivrance, ce pardon aussi, après toute une vie de débauche pour certaines, et un véritable renouveau. Et c'est le cas pour ces femmes du début du chapitre 8 de l'évangile de Luc, qui accompagnaient Jésus, n'est-ce pas, quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Alors, revenons à ces femmes du début du chapitre 8 de l'évangile de Luc. Une remarque à faire, c'est qu'elles sont mentionnées à côté des 12. Voilà, c'est quelque chose aussi d'étonnant. Les 12, c'était vraiment une élite en quelque sorte, n'est-ce pas ? Et ces femmes sont là à côté. Elles n'ont pas le même statut, c'est vrai. Pourtant, elles auraient pu revendiquer ce statut. Quand il a fallu élire le 12e apôtre, parce que Judas avait été écarté, le critère d'élection, c'était d'avoir suivi Jésus depuis son baptême, en quelque sorte, depuis le tout début, et d'avoir été témoin de la résurrection. C'était le cas pour ces femmes. Elles avaient accompagné Jésus, le texte dit, là, depuis la Galilée. Donc, elles avaient entendu tout son enseignement. Elles avaient assisté à tous ses miracles, n'est-ce pas ? Et elles étaient des témoins privilégiés aussi, et elles le seront, on va revenir sur ces textes, au moment de la crucifixion et au moment de la résurrection. Donc, elles auraient très bien pu être nommées apôtres, n'est-ce pas ? Mais voilà, elles restent dans l'ombre. Et pourtant, elles sont tellement, pleinement, pleinement des disciples. Les 12 et quelques femmes. Le texte est intéressant. Et elles ont un rôle important, je dirais même essentiel. Elles pourvoient à l'intendance. Elles assuraient l'intendance. Elles assistaient de leurs biens. Elles assuraient l'intendance auprès de celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête, qui était itinérant, auprès des 12 qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, leur famille, leur travail. Un jour, Pierre a dit, « Mais Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. » Ils n'avaient plus rien. Mais ces femmes étaient là. Et elles assuraient la nourriture de chaque jour et puis, tout ce dont ils avaient besoin. Un rôle essentiel, le service des tables. Vous vous souvenez sans doute qu'au début de l'histoire de l'Église primitive, au chapitre 6 du livre des Actes, c'est le premier grand problème rencontré par l'Église. Et ce problème, c'est un problème d'intendance. En plus, il y avait un problème un petit peu de racisme, de multiculturel, parce qu'il y avait les Hébreux, il y avait les Grecs, etc. Et puis un problème social, les veuves étaient négligées, n'est-ce pas? Et l'Église a failli exploser à cause de ce problème. Tout juste après être née, avoir démarré, c'était un problème important. Alors les 12 ont dit, mais nous devons faire face à ce problème. Et on a nommé les diacres pour le service des tables, et les 12 ont continué à assurer le service de la parole. C'était une différenciation dans le service, mais c'était là quelque chose de très important, n'est-ce pas? Et ce rôle, ces femmes l'ont tenu fidèlement jusqu'à la croix, où nous les retrouvons. Elles sont là au pied de la croix avec, semble-t-il, le seul disciple qui n'avait pas fui. Alors, voilà les textes, cette fois-ci dans les quatre évangiles. Matthieu et Marc sont assez semblables. Je vais lire seulement le texte de Marc. Je vais peut-être commencer par Luc, puisque nous sommes dans Luc, n'est-ce pas? Au chapitre 23, voilà ce qu'il est dit, et au verset 49. Les foules qui étaient venues assister à cette scène après avoir vu ce qui était arrivé s'en retournèrent en se frappant la poitrine. C'est la fin de la crucifixion. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui s'est passé. Voilà le texte de Luc. Maintenant, dans Marc, au chapitre 15, voilà comment les choses sont dites. Et au verset 40 et 41, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et cette Salomé est, semble-t-il, la mère des fils de Zébédée. Vous voyez, on ne donne pas le nom, on dit qu'elle est mère, et puis on nomme le père, n'est-ce pas? La mère des fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Elles étaient présentes là, lors de la crucifixion. Alors, l'évangile de Jean aussi mentionne, n'est-ce pas, ce fait, à peu près dans les mêmes termes, au chapitre 19 et les versets 25. Près de la croix près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine, encore elle. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc elles étaient là, jusqu'au bout. Elles assistaient à la crucifixion. Le texte ne dit pas ce qu'elles pensaient, mais elles devaient être bien troublées. Mais ce qui est frappant, c'est que, n'est-ce pas, ce service fidèle a été fidèle vraiment jusqu'au bout. Et ce service fidèle jusqu'au bout les a amenés plus loin encore. Les quatre évangiles mentionnent ce groupe de femmes au pied de la croix. Qu'est-ce qu'elles font au pied de la croix? Elles regardent. Elles sont témoins. Témoins de ce qui se passe, n'est-ce pas? Elles ont vu tout ce qui s'est passé. Elles ont entendu le bruit du marteau sur les clous. Elles ont entendu les soupirs, les cris de douleur. Elles ont entendu la foule qui se moquait. Elles ont tout entendu. Elles ont tout vu. Elles ont entendu les sept paroles de la croix, les paroles des brigands, le témoignage du centenier après la mort de Jésus. Elles ont constaté la mort de Jésus et sa descente de la croix et sa mise au tombeau. À la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 23, cela est rapporté ainsi, verset 55. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph qui s'était proposé pour mettre le corps de Jésus dans un tombeau. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'en retournèrent pour préparer les aromates et les parfums. Puis pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Donc voilà ce texte de Luc, comment il insiste sur ce groupe de femmes et sur son rôle de témoin jusqu'au bout. Donc leur service humble, fidèle, persévérant, a fait qu'elles ont été témoins de la mort de Jésus, de sa mise au tombeau. Mais aussi, très tôt, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche matin, ce service fidèle les a fait se lever et apporter les aromates, n'est-ce pas? Les aromates coûtaient très cher. On n'embaumait pas comme ça tous les cadavres, n'est-ce pas? C'était un peu exceptionnel. Ces femmes avaient des moyens. En tous les cas, ils ont préparé tout ce qu'il fallait pour prendre soin du corps de Jésus. Alors que, comme les disciples, elles auraient dû être effondrées. Mais on s'est trompé. Il est mort. Tout est fichu, n'est-ce pas? Que faisaient les disciples pendant ce temps? Ils étaient ensemble, en comité, en quelque sorte, bien cachés dans la chambre haute, n'est-ce pas? Ils discutaient, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient pas quoi dire. Mais les femmes, elles ont rendu encore comme ce dernier service pour le corps de Jésus. Et c'est ainsi qu'elles sont devenues, elles, les premiers témoins de la résurrection. La suite du texte de Luc est très claire, n'est-ce pas? Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates et tout ce qu'elles avaient préparé. Et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Et à ce moment-là, deux anges leur sont apparus. C'est l'évangile de Jean aussi qui va parler tout spécialement de Marie-Madeleine. Et elle est là, elle est désolée, elle pleure, et vous savez que Jésus lui apparaît, et elle croit que c'est le jardinier, et finalement, c'est elle, l'ancienne démoniaque, n'est-ce pas, qui va être la messagère auprès des disciples pour annoncer la résurrection de Jésus. Et ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme. Dans la culture juive, à ce moment-là, une femme ne pouvait pas être témoin dans un procès. C'est pas sérieux, n'est-ce pas? Elles sont tellement sentimentales, etc. Non. Et c'est cette Marie-Madeleine, délivrée de sept démons, qui a été témoin de la résurrection. Alors, les disciples n'ont pas cru, mais il y en a quand même deux qui ont couru au tombeau, n'est-ce pas? Et puis, qui ont vu des choses étonnantes dans ce tombeau. En particulier le linceul qui était plié soigneusement dans un coin. Comment ça se fait? Les premières témoins de la résurrection. Et historiquement, ce rôle des femmes est fondamental, n'est-ce pas? C'est elles seules qui ont été les témoins de l'ensemble, de tout ce qui s'est passé, de la mort de Jésus, de sa mise au tombeau et de la résurrection. Des femmes disciples. Des modèles de disciples, des modèles de discipulat. qu'est-ce qu'être disciple? Eh bien, ça commence par une rencontre personnelle avec Jésus, ce face-à-face avec Jésus. Qui d'entre nous peut en témoigner? On sait bien que Jésus est mort sur la croix, mais le jour où on comprend qu'il est mort pour moi, le jour où on est face-à-face à lui, seul avec lui, et qu'on doit se décider pour qu'il entre dans notre vie, qu'il pardonne notre passé, qu'il nous libère, être guéri, pouvoir aller de l'avant pour une vie nouvelle par cette rencontre directe, personnelle avec Jésus. Être disciple, ça commence par là. Et là, ces femmes étaient vraiment modèles, en tous les cas celles dont on parle. Il y a aussi toutes celles dont on ne parle pas, mais qui ont accompagné aussi Jésus depuis le commencement jusqu'à la fin. Ensuite, être disciple, c'est avoir un service fidèle, jusqu'au bout. Et ce service peut être très varié, ce n'est pas seulement le service de la parole, mais ça peut être aussi le service des tables, et on en a bien besoin. On a bien besoin, nous ne sommes pas seulement des esprits, n'est-ce pas? Un service humble, quel qu'il soit, que Dieu nous confie. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être là où il nous a placés, dans notre quartier, dans notre ville, que sais-je encore, dans l'église ou en dehors. Un service fidèle jusqu'au bout. Des modèles de disciples. Voilà ce que ces femmes nous montrent. Et enfin, être un témoin. Un témoin sûr, un témoignage clair, simple de ce que Jésus est, de ce que Jésus fait, de ce que Jésus a dit, ce qu'il enseigne. Témoin de son enseignement, témoin aussi de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection. Tout cela est vrai. Je le sais, je l'ai vécu. Être témoin. Et être disciple ainsi, ce n'est pas réservé à une élite, n'est-ce pas? À des gens extraordinaires. C'est vraiment pour chacun de nous. Et peut-être surtout pour ceux qui se sentent méprisés, handicapés par la vie, souffrant injustement ou agressés ou que sais-je encore. C'était le cas de ces femmes. Mais elles ont été des disciples fidèles, n'est-ce pas? Jésus est là pour guérir, pour consoler, pour transformer, pour délivrer, pour nous mener plus loin, pour nous engager dans un service fidèle et un témoignage majeur, fondamental, très important, ce témoignage dont le monde a tant besoin autour de nous. Alors merci Seigneur pour le témoignage de ces femmes. Prions ensemble. Seigneur, c'est tellement important de prendre conscience de ces choses dans le monde où nous vivons. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir t'aimer, de devenir tes disciples, de vivre avec toi chaque jour et d'accompagner chaque jour avec fidélité, bonne volonté et joie le service que tu nous confies, quel qu'il soit. Aide-nous à tenir jusqu'au bout, Seigneur. Aide-nous à être des témoins clairs et fermes là où tu nous as placés. Je te prie, Seigneur, pour que ce matin, ceux qui parmi nous peut-être n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle, ce face-à-face avec toi, puissent le vivre et que leur vie en soit transformée. Que tu puisses aussi consoler, guérir nos cœurs de toutes les blessures de la vie et que, fort de cette guérison, nous puissions aller de l'avant avec toi et te servir fidèlement. Bénis cette communauté, Seigneur, son témoignage, tous ses responsables, tous ses membres, et que ce puisse être un véritable flambeau là où tu les as placés dans cette ville pour proclamer la venue de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments que nous pouvons vivre ensemble, pour ta parole qui nous apporte vraiment patience et consolation en Jésus-Christ. Amen.